France Internationale.
Oui, je sais, je retarde, mais suis-je le seul ? Hier, je n'ai pas dû écouter la radio ni la télé, car ce n'est que ce matin que j'ai appris la nouvelle, formidable, extraordinaire, incroyable, le PS a changé, imaginez. Le Parti Socialiste Français n'est plus révolutionnaire, car il l'était, Ségolène Royal, François Hollande, Laurent Fabius ou Dominique Strauss-Kahn, révolutionnaire, ça m'avait échappé, mais apparemment c'était écrit dans la déclaration de principe du parti, quand flottait un soupçon de gauche caviar, ils avaient en fait le couteau entre les dents. Vieille histoire, aujourd'hui tout cela est fini, la déclaration a été ripollinée et la référence à la révolution effacée. Changement de temps, enfin, le XXe siècle et ses utopies assassines souvent et finies depuis 8 ans. Vivement demain, mais que reste-t-il ? Le mot réforme, mot à la mode, mais pourquoi faire ? Dans quel sens ? Pour quelle métamorphose ? Car de réformes, il y en a en tout genre, des grandes et des réformettes, des profondes et des effets d'annonce. C'est devenu une rengaine et un cache-sexe. Mais il faut être pour être moderne ou prétendument. Estampillé politiquement correct et tant pis pour le rêve, contenu dans le mot révolution. Faute de changer la vie, le PS change donc son lexique. Gare aux rimes riches qui font quand même sonner réforme avec informe.
Culture vive, Pascal Paradis.
Créer de nouvelles images, intégrer la bande dessinée, le cinéma, la pub, être en phase avec l'air du temps, la politique, mai 68, en finir avec l'abstraction. Les artistes de la figuration narrative ont fait souffler un vent nouveau dans la peinture et aujourd'hui, ils sont réunis au Grand Palais à Paris. Mais c'est chez lui que l'Italien Valerio Adami nous a reçus pour parler de ces années-là, les années 60, et de son œuvre actuelle. Bonjour Valerio Adami.
Bonjour.
Nous sommes dans votre atelier à Montmartre. Le Sacré-Cœur est à quelques mètres. Atelier qui est aussi votre appartement. J'ai l'impression que c'est un peu un privilège. Vous travaillez à quoi en ce moment ?
Question complexe. Parce que je ne peux pas vous donner les titres des tableaux sur lesquels je suis en train de travailler. Les titres d'un tableau, les formes d'un tableau sont des formes assez contingente. Non, on travaille toujours à la recherche de soi-même, en effet. Et chaque jour, peut-être, par rapport au style, par rapport au langage, par rapport au vocabulaire, qui s'enrichit peu à peu, bien, on arrive à donner quelques réponses à notre vie. Et je dirais à notre vie plutôt qu'à la vie d'une société, qu'aujourd'hui, il s'est tellement enfin, compliqué dans des complications politiques, sociologiques, économiques surtout, n'est-ce pas ? Donc, à quoi je travaille ? J'attends qu'une idée puisse me venir. Je me souviens de Richard, enfin d'un grand ami, oui, qui me disait, mais mon atelier c'est comme une salle d'attente. Et en effet, un atelier est une salle d'attente. On est là et on attend quelque chose qui vient.
Je vois deux tableaux avec des couleurs jaunes, et puis alors à terre, il y a une collection de pots de couleurs. Donc ces tableaux attendent que vous arriviez, que vous veniez les voir de jour ou de nuit, puisque vous habitez là où vous travaillez,
ouais.
C'est ça ?
Oui, j'ai toujours aimé, sauf à New York où j'avais un atelier qui n'était pas chez moi, mais sinon j'aime beaucoup de vivre là où je travaille. La palette, oui. C'est quoi la couleur ? Là, vous parlez de la couleur jaune. Il y a des couleurs symboliques pour moi. Le jaune et le gris, par exemple, sont les couleurs de la mort. Mais la couleur dans un tableau est un peu comme une chambre de musique. Un vrai salon de musique. La couleur, il faut la voir comme ça dans un tableau. Comme la musique, qui amène des états d'âme, et qui naissent aussi par des états d'âme. Vous avez parlé d'une grande palette, c'est une palette de 500, 600 couleurs, que je prépare à l'avance. Une fois par an, pendant un mois, je travaille sur cette palette. Mais cette palette est une autre chose. C'est essayer désespérément de retrouver des émotions vécues. Si je cherche dans son tableau, au moment mélancolique, où je trouve la mélancolie. Oui, je peux la trouver aussi dans l'attitude de Dudessen, Dürer, les tableaux sur la mélancolie de la gravure de Dürer, et avec la main appuyée sur le visage. Mais pour moi, ce sont des moments vécus. Et là, je cherche la couleur. Je ne sais pas. Je suis rentré avec un bateau dans le Bosphore. Et c'était la fin de la journée. Et cette couleur orange qui avait enfin investi nos corps, la mer, l'eau, le paysage lointain, c'était la fin de la journée. Et c'était là le moment de la mélancolie. Le moment de la mélancolie est le soir, n'est-ce pas? Et avec cette couleur rouge, rouge-orange, c'était là pour moi la mélancolie. Et aujourd'hui, quand je dois peindre la mélancolie, je la peins avec ces couleurs-là, et pas avec le bleu avec lequel les Grecs définissaient la mélancolie.
J'ai lu, Valerio Adami, que vous aviez un temps occupé l'atelier de Gala et Dali. C'est celui-ci?
Oui. Salvatore Dali parle dans son journal du 7 rue Becquerel. J'ai essayé de faire des enquêtes, savoir si était vraiment au cinquième étage. Alors j'ai retrouvé des photos, et oui, je pense que c'était exactement là où nous on se trouve à ce moment.
C'est ce qu'on appelle une bonne maison.
Une bonne maison, oui.
En tout cas, ça ne fait pas de vous du tout, Valerio Adami, un surréaliste, bien au contraire. Et vous êtes en ce moment associé à un autre mouvement, d'ailleurs, qui est la figuration narrative, mouvement dont on peut voir les œuvres en ce moment au Grand Palais, avec une exposition rétrospective qui va de 1960 à 72. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mouvement de figuration narrative, et quel en a été son acte de naissance?
Non, je ne me reconnais pas du tout dans cette
mouvement,
la figuration narrative. J'ai un grand respect pour tout ce qui était fait là, et j'ai le respect aussi de ce qui était ma vie dans les années 60, dans lequel on avait des grandes amitiés, des grandes affinités avec le peintre qui après est les historiens de l'art, comme Gassio Talabo, comme Gaudibert, comme Marc Lebotte, qu'ils ont défini ce mouvement. Mais je ne pense pas qu'on peut trouver des signes narratifs dans mon travail. Si je pense à mon travail, à une définition de mon travail, c'est plutôt la métaphysique. Mais j'ai toujours pensé que la peinture était la représentation du tragique, et en même temps était la métaphysique. C'était la métaphysique, c'était sortir de tout ce qui était une sorte de narrativité. En même temps, c'est vrai que quand même, on a vécu un peu, pour la première fois, je dois dire. Et c'est pour ça que je fais partie, si vous voulez, aux marges de ces mouvements-là, même si je ne reconnais pas en définition de mon travail dans la narrativité. Mais c'était pour la première fois qu'on a essayé de reconstruire l'image, la représentation, dans le sens enfin, de la représentation de ce qui était l'art occidental, la représentation comme métaphore, la représentation comme allégorie, la représentation qui venait quand même des problématiques éthiques plutôt que les problématiques esthétiques d'une certaine école de Paris qui était avant nous.
Oui, on sort, enfin, on est dans cette période-là, dans l'art abstrait. L'école de Paris que vous citez, c'est l'abstraction. Donc en fait, c'est une rupture dans l'histoire de la représentation, ce mouvement, ces individus qui forment un collectif qui s'appelle la figuration narrative.
Tout à fait, mais ça c'était vraiment tout ce qui est arrivé, si vous voulez, après la guerre, avec cette sorte, et la nôtre était la génération, et je dis, je suis tout à fait d'accord avec ces mots nôtres, parce que moi j'ai en 58 j'étais en Angleterre, j'étais à Londres, j'avais rencontré tous des jeunes peintres de mon âge, qui à l'époque on avait 20 ans, comme Kitai, Jim Dine, Blake, Richard Hamilton, etc. Et on était devenus, le monde était différent. le monde de l'art était tout à fait différent. Et Londres a vécu les mêmes choses qu'il a vécu après Paris. La reconstruction d'une image, la reconstruction des valeurs éthiques de l'art, plutôt que cet esthétisme, n'est-ce pas, ou tout cet espace psychologique de la peinture. Pollock qui essayait de déposer son inconsciente avec cette opération de dripping. Oui, mais quand même, qu'est-ce qu'il a fait? En effet, rien d'autre que des surfaces et des matières. La matière amène des choses, mais nous, on cherchait les langages.
Mais dans le même temps, aux États-Unis, Valerio Adami, il y a le pop art. En 64, Rauschenberg remporte le Grand Prix à la Biennale de Venise. C'est un événement historique. Donc, on cherche du côté des États-Unis des images. C'est les fameuses Marilyn Monroe, de Warhol, tout ça. Et en France, en Europe aussi, c'est des mouvements qui vont de pair, non?
Arriver aux États-Unis, pour ma génération, était quelque chose d'extraordinaire. Nous, on s'était nourris de toute une poésie américaine. Et quoi était aussi si extraordinaire, c'est que tu faisais le voyage vers Los Angeles et tu t'es retrouvé devant à des iconographies qui étaient des iconographies tellement frappantes et nouvelles et qui communiquaient avec une telle rapidité, enfin, en tant qu'image. Et donc on s'est beaucoup, on était très très séduits par tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Il y avait McLuhan qui disait « the media is the message ». Et c'est tout. Nous, qu'est-ce qu'on amenait d'Europe? Et qu'est-ce qu'on avait derrière nous? On avait quand même Heidegger. Eh bien, essayez de chercher un peu dans ce qui est la reconstruction de l'image en Europe. La peinture allemande de ma génération, la peinture anglaise de ma génération. Et là, vous retrouverez les pensées de Heidegger, et pas du tout McLuhan.
Valerio Adami, enfin je crois souvent qu'on dit Adami.
Oui.
Pourquoi? C'est le privilège des grands?
Non.
Comment vous avez trouvé votre style Adami? Ce style très particulier, donc avec des lignes très très graphiques, plus ou moins épaisses, qui déterminent des aplats de couleurs très nettes, très franches. Vous n'êtes pas du tout dans la nuance ou... Ou dans le pastel.
Bien, ça vient aussi d'une certaine obsession pour la forme, une certaine obsession du dessin, qui est aussi le dessin de la forme close et pas de la forme ouverte, comme Wolflin au 18e disait, n'est-ce pas, qu'il y a la forme ouverte qui est celle-là de Rembrandt et la forme close qui est la forme de Dürer, un point qui revient sur soi-même, mais qui ne dessine pas un cercle, il dessine une sphère. Donc, dans lequel il y a dans la sphère la troisième, la quatrième et la cinquième dimension. Voilà, ça c'est sans doute ce qui faisait partie de ma... Mais où, comment on y arrive? C'est ce que souvent des jeunes artistes désespérés ils me demandent. Mais comment trouver sa propre écriture?
Et vous savez pas répondre?
Non, je peux dire uniquement de ces... Un jour, on découvre une petite virgule. Et cette virgule-là, je ne sais pas avec quelle intuition, on pense que c'est là que tu peux la développer, la multiplier, etc. Et de là sort une image et un style d'une image, qui n'est pas la calligraphie, est reliée à une pensée, est reliée à soi-même, est reliée à son corps, est reliée à beaucoup de choses. Mais c'est là la difficulté. Il y a un autre problème. Il y a une autre vérité qui est la vérité de la peinture. Prenez un verre, c'est un cylindre qui termine dans un cercle. Et un verre est transparent, vous pouvez le regarder et retrouver une vérité qui est la vérité de l'observation. Mais si vous fermez les yeux et vous les touchez, cet verre, avec les yeux fermés, vous aurez une autre vérité. Et c'est la vérité de la tactilité, c'est la vérité de la main, c'est la vérité de la mémoire de la main. Eh bien, tout passe par là. Un peintre, la seule chose que j'ai appris pendant 70 ans de travail, c'est que il doit abandonner soi-même et trouver ces moments qui est comme la prière. Vous priez, vous dites toujours la même chose, et moi je travaille toujours avec la gomme pendant des heures, je gomme ce que je suis en train de faire, qui est ton rituel. Mais en certains moments, tu as un moment de méditation et d'extase. Donc tu abandonnes toi-même et quelque chose arrive. Et peut-être le style aussi arrive de ça.
J'ai envie de vous demander un exercice pratique, Adami. Dans l'exposition Figuration Narrative, donc au Grand Palais, il y a un tableau, un de vos tableaux, qui s'appelle Bedroom,
oui.
Et qui est donc la représentation d'une chambre, et apparaît un fragment de corps de femme, ses jambes et son bassin. Comment, assez simplement, comment ces femmes fabriquer un tableau comme celui-là?
Bien, celle-là, c'est une époque dans laquelle j'ai essayé de gommer tout ce qui était la sensibilité. On cherchait quand même une représentation cool, pour utiliser un mot qui nous venait des États-Unis, parce que ces tableaux, je l'avais peint à New York à l'époque, et c'était un tableau qui venait de la lecture d'un poème de Auden. Et j'ai essayé là, peut-être, à partir de cette idée, de cette image que Auden m'avait donnée, d'associer des différentes choses. La peinture est toujours une sorte de montage, est toujours une sorte d'association. Pendant que tu dessines, et vous, pendant que vous écrivez, vous avez une quantité infinie d'images qui passent rapidement sur votre table. Le problème a été de les choisir, de les prendre, de le construire et de les associer et de trouver des formes cohérentes, n'est-ce pas, par cette association. Et puis tout est là. Je me souviens Rossellini qui disait, oui, les montages et tout, mais vous savez, les montages et les rythmes, et on l'apprend pas, c'est quelque chose qui te sort naturellement.
Ça veut dire que vos tableaux seraient comme la condensation d'un film.
C'est les précipités chimiques de certaines choses. Vous mettez des éléments de votre vie dedans, de votre mémoire, ou des choses que vous voyez, ou des choses qui sont des lectures, qui viennent enfin de partout. Et puis il y a un précipité chimique. Et ça, c'est la toile.
Ce qui est étonnant dans ce tableau-là, mais dans beaucoup de vos œuvres, Adami, c'est qu'on reconnaît des choses, on arrive à lire des choses, et en même temps, il reste de l'illisible.
Oui, bien. Mais vous savez, la vérité de l'art incarne et il porte en soi, en vérité, mais il ne peut pas l'expliquer. Si vous cherchez de comprendre avec les méthodes qu'ils nous ont apprises à l'école, qui est 2 plus 2 et 4, eh bien, oui, vous comprenez uniquement ce qui est la surface d'une image peinte ou d'une peinture. Mais si vous pensez tout de suite que 2 plus 2 peut faire 7, ou qu'il peut rester à numéro 1, eh bien, vous voyez qu'il y a une autre vérité. C'est la vérité du cœur. Quand à l'école, ils nous ont dit, mais non, enfin, le penser vient de la tête, tout passe là. Eh bien, il y a des pensées qui viennent de la tête, mais il y a d'autres pensées qui revient du cœur, même si à l'époque, à l'école, on nous disait, mais non, le cœur, je vous en prie, est une pompe, et puis surtout, c'était la confusion est venue du Moyen-Âge, la pire des époques de notre culture et de notre civilisation, qui n'est pas vrai du tout. Pensez à l'amour, pensez à la pitié, et ça, c'est les pensées du cœur. Et pensez aussi à la civilisation égyptienne, qui pensait que chaque partie du corps pensait, et que donc l'amène. Pour un peintre, c'est la main qui pense, beaucoup plus que la tête, et beaucoup plus que les yeux.
Et vos tableaux sont nourris de toutes ces références, de toutes ces histoires de la peinture, de tous ces peintres, de toutes ces périodes. Je vois ici dans votre atelier que vous êtes un collectionneur, il y a beaucoup d'œuvres contemporaines, mais aussi d'œuvres anciennes du XVIIe ou XVIIIe siècle, des dessins notamment.
Je pourrais vous répondre avec une citation qui me vient à l'esprit là maintenant, c'était Faulkner qui disait, oui, mais vous savez, le passé et de quelques minutes, et le présent est fait de 5000 ans. Et donc, tout cet passé, que peut-être il nous nourrit, enfin, et le présente.
Valerio Adami, dont on peut voir les œuvres au Grand Palais à Paris, dans le cadre de l'exposition sur la figuration narrative, et ce jusqu'au 13 juillet, à lire aussi le catalogue de l'expo et un essai de Jean-Louis Pradel, publié chez Azan. Le journal, et ensuite vous retrouvez les chroniqueurs de l'émission Culture Vive.